Bonjour, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Oslo, le prix Nobel de la paix décerné cette année au président colombien Dos Santos. Washington et Moscou, rupture entre les deux grands autour de la Syrie. Kunduz, en Afghanistan, pendant le chaos syrien, les talibans lancent des offensives. Et puis Londres, à quoi ressemblera le Brexit dur vers lequel semble se profiler Theresa May, le Premier ministre britannique? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pour nous accompagner pendant une heure, il y a Dominique Simonet, enseignant, écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Qui fait paraître avec Nicole Bacharan les First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. Alors oui, les First Ladies donc qui sont dans les coulisses, Eleanor Roosevelt, Michelle Obama, Jacqueline Kennedy. Puis on parlera évidemment de celle qui, elle, veut arriver au premier rang, c'est bien sûr Hillary Clinton, la présidente. Il y a un chapitre, vous y consacrez, à l'intérieur de cet ouvrage. François Hesbourg, bonjour.
Bonjour.
Conseiller spécial pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Comment perdre la guerre contre le terrorisme, livre sorti au printemps dernier, mais terriblement d'actualité toujours, et on va y revenir évidemment dans quelques instants. Alors, exercice traditionnel chaque année, à la même période, début octobre bien sûr, l'annonce du prix Nobel de la paix depuis Oslo.
Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2016 au président de la Colombie, Juan Santos, pour ses efforts résolus pour amener la paix après 50 ans de guerre civile.
Ouais, 50 ans de guerre civile, et c'était il y a deux semaines, la signature d'un accord de paix, justement, à Cartagène, entre le président Dos Santos et les guérilleros des FARC, hein, créés en 1964, accord historique. François Hesbourg, c'est justifié ou pas par rapport aux années précédentes? Il y a toujours un petit peu de polémique autour de la paix.
D'abord, le président Santos méritait indéniablement d'avoir cette année ou une autre année le prix Nobel de la paix. Il a vraiment mouillé sa chemise. Mais le problème, bien sûr, c'est qu'il n'est pas le seul à mériter le prix Nobel de la paix. Et je pense que les casques bleus, casques blancs, en Syrie,
les sauveteurs de l'opposition syrienne,
les gens qui sauvent les personnes qui sont pris sous les bombardements sans tenir un fusil, si je puis dire, et méritaient amplement le prix Nobel. Et il faut savoir, d'autant plus que le président Santos a malheureusement échoué dans le référendum et qui devait valider le plan de paix.
C'était dimanche dernier, un projet car trop favorable aux guérilleros, Dixit, donc les observateurs.
Voilà, vous savez, le prix Nobel de la paix, à la différence des autres prix Nobel, est décerné à Oslo par un comité norvégien et qui est un peu provincial, et ce qui explique aussi parfois des choix un petit peu curieux. Et je parle sous votre contrôle. C'est comme le prix Nobel pour Obama, alors que Obama n'avait pas encore eu l'occasion de faire quoi que ce soit qui pût être considéré comme une contribution majeure à la paix internationale. Ils avaient préempté ce qui aurait pu se passer.
On ouvre une parenthèse, élu en 2008, récompensé en 2009.
On se souvient, il avait été un peu embêté d'ailleurs, Barack Obama, à l'époque, c'était un peu compliqué. Cela dit, Santos, c'est pas forcément un mauvais choix, parce que on l'a oublié, cette guerre, cette guérilla contre les FARC, mais ça fait plus de 50 ans. 50 ans que la Colombie est à feu et à sang.
260 morts, 45 000 disparus, voilà. 7 millions de réfugiés.
Et les FARC, il faut bien le dire, c'est une idéologie absolument abominable. C'est encore des crypto-marxistes qui torturent, qui pratiquent le trafic de drogue. On se souvient en France d'Ingrid Betancourt.
Pour qui ça s'est bien terminé.
Voilà, pour qui ça s'est bien terminé. Mais cette abomination a duré pendant des années et des années. Donc essayer d'y mettre fin, c'est vrai que c'est compliqué. et Santos a essayé de dire en même temps, voilà, on va pas trop taper sur les criminels, c'est ce qui pose problème.
Bien sûr, et d'ailleurs ce vendredi matin, François Hesbourg, le comité Nobel, estimait qu'il y avait un vrai danger, que le processus de paix s'interrompe, donc allusion évidemment au référendum de dimanche dernier. Là, la Norvège, qui n'était pas très très loin aussi de cet accord, cet accord, il a été conclu pendant 4 ans sous les auspices de la Norvège. Alors oui, ils sont peut-être un peu provinciaux, le comité Nobel, mais ils sont quand même actifs dans les coulisses.
Ah non, mais ça, ils sont très actifs. Ils sont très actifs. Je parle le comité.
J'ai compris.
Le comité, je ne parle pas de la Norvège telle. Et il y a plusieurs pays qui ont été actifs dans le processus de paix. Il y a également les Suisses, il y avait également Cuba. Et c'est une affaire très importante. Et le président Santos mérite son prix Nobel, mais comme il faut toujours choisir, quelque part, il aurait peut-être mieux valu récompenser ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler dans des circonstances absolument terribles.
On y vient tout de suite,
Et peut-être récompenser le président Santos une fois l'accord de paix aura été validé.
Et qu'il y a eu le désarmement des FARC pour l'instant, qui n'est pas encore en cours.
Encore fait.
Alors la paix, évidemment, la Syrie, elle en aurait évidemment bien besoin. Donc Alep, sous les bombes syriennes et russes, de façon ininterrompue, quasiment maintenant depuis 2 semaines. Ce cri d'alarme de Stéphane de Mistura. Stéphane de Mistura, c'est l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie.
The bottom line is, in maximum 2 months, 2.5 months,
dans deux mois et demi au maximum, la partie est d'Alep peut être totalement détruite. Je parle de la vieille ville en particulier, et des milliers de civils, non des terroristes, seront tués et la plupart d'entre eux blessés. Des milliers et des milliers d'entre eux tenteront de fuir. Ils sont 275 000.
François Hesbourg, qui peut entendre cet appel? Qui peut faire respecter cet appel de Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie?
Je pense que l'appel serait mieux entendu si Stéphane de Mistura allait à Alep. Et je n'ai pas entendu dire que c'était dans ce projet. Je pense qu'il est urgent qu'il y aille. Et ça permettrait peut-être d'avoir quelques heures sans bombardement sur la partie orientale de la ville. Il suffit pas de tirer le grelot devant les caméras de télévision, ce serait peut-être aussi bien de le faire in situ. Et sur le fond, la Russie considère qu'elle a la main depuis août 2013, depuis que le président Obama avait manifesté son inconséquence stratégique. Les Russes font comme s'ils étaient en charge, et ils le font avec une certaine efficacité, hélas, et ils appliquent maintenant la méthode Grozny à Alep. Et ça n'avait pas si mal marché en Tchétchénie, si je puis dire. Et bien sûr, le cycle électoral américain est une incitation supplémentaire. Il vaut mieux faire tout ça avant l'investiture du prochain président, présidente, le 20 janvier 2017.
Vous avez cité Grozny, la méthode tchétchène des Russes. Allez, vous êtes un grand spécialiste, François Hesbourg, sur l'échelle des guerres, sur l'échelle des destructions, de la barbarie, je ne sais pas. Alep, vous le situez où?
Et c'est bien pire que Sarajevo.
Oui. Et
c'est à une échelle plus importante qu'en Tchétchénie. On est donc tout en haut de l'échelle d'une guerre qui ne soit pas une guerre mondiale, si je puis dire. Et pour une guerre régionale, c'est pour moi le niveau de violence le plus élevé que l'on ait vu, plus violent même que la partie la plus violente de l'occupation américaine en Irak.
Qu'est-ce qu'il veut, Poutine?
S'il veut Poutine, il veut maintenir au pouvoir un allié qui lui est cher, maintenir ses positions stratégiques en Syrie, montrer surtout que la Russie n'est pas simplement une puissance euro-asiatique, qu'elle est aussi une puissance internationale, et en reprenant pied au Moyen-Orient avec, hélas, parce que tout ça se passe dans la violence, mais en reprenant pied avec un grand succès, et au Moyen-Orient, où la Russie est devenue incontournable. Donc, pour Poutine, tout ceci est parfaitement rationnel. Ce ne sont pas et nos plaintes françaises ou européennes, et ce ne sont pas les plaintes à peu près du même ordre américaines qui vont changer le comportement de Poutine. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait de faire quelque chose qui lui permet d'atteindre ses buts de guerre?
Alors, c'est cette guerre en Syrie qui raidit de plus en plus les Occidentaux, Américains en tête, contre les Russes. Hein. Rupture des pourparlers entre Russie et États-Unis sur la Syrie. John Kerry.
I have to tell you with a great sense of outrage that Russia has turned a blind eye.
Je dois vous dire avec un profond ressentiment que la Russie a fermé les yeux sur l'usage regrettable par Assad de ses armes de guerre, comme ce gaz à la chlorine, ces barils explosifs contre son peuple. Et ensemble, le régime syrien et la Russie semblent avoir rejeté tout effort diplomatique pour viser plutôt une victoire militaire sur les corps démembrés, les hôpitaux bombardés, les enfants traumatisés d'un territoire qui a trop souffert. Ceux qui sont appliqués sérieusement pour faire la paix se conduisent différemment de la façon que les Russes ont choisi.
Dominique Simonet, on vient d'entendre le secrétaire d'État américain. Cette rupture sur la Syrie entre Américains et Russes, ça signifie quoi?
Déclaration d'impuissance. Ouais. Déclaration d'impuissance, et on le voit à la fois de la part des États-Unis, François Hesbourg le citait juste à l'instant, ça a commencé à capituler avec cette histoire de ligne rouge, et en 2013, et on en est encore là. Barack Obama vient d'annoncer encore qu'il allait essayer de faire des sanctions maintenant contre les entreprises russes, ou d'essayer de remobiliser l'ONU, mais qui y croit? Qui y croit? Et donc on est vraiment dans une situation terrible, parce que la situation à Alep, François Hesbourg l'a dit, les Russes veulent raser. C'est Grozny, effectivement, ils veulent raser ce territoire avec, en utilisant en plus des choses abominables, des bombes à phosphore, des bombes à fragmentation. Donc c'est une abomination. Et on a de partout, à la fois des gesticulations un peu européennes et quelques gesticulations américaines qui ne prouvent qu'une chose, c'est que personne n'est capable de d'agir ou d'intervenir ou de faire pression. Effectivement, Poutine est tout puissant dans cette histoire et il veut affirmer le plus vite possible avant l'élection probable d'Hillary Clinton, il va affirmer son pouvoir, donc il veut détruire le plus vite possible.
Gesticulation, François Hesbourg, propos, on affirme, on déclare, on proclame, très bien. Est-ce que les États-Unis quand même pourraient éventuellement se mettre à livrer, par exemple, des armes aux rebelles, des missiles solaires aux rebelles qui se trouvent dans la partie est d'Alep?
Oui, mais ce qui se passerait à ce moment-là, c'est que les armes seraient remises aux rebelles, qui sont eux-mêmes largement affiliés dorénavant à Al-Qaïda. Et parce que, bien entendu, les rebelles font face maintenant à la puissance de la Russie et bien sûr aussi à l'armée syrienne. Ils sont en train de se faire exterminer et donc ils s'allient avec qui ils peuvent. Et les gens avec qui il s'allie, ce sont probablement les successeurs de Daesh, puisque Daesh est en train de perdre du territoire, est en train de perdre une partie de sa part du marché djihadiste. On va voir revenir Al-Qaïda relooké, hein, Al-Qaïda 2.0, qui organisera des attentats comme ceux de Madrid ou de Londres ou de New York à la place des attentats de Daesh. Et autrement dit, c'est pas vraiment une option. Une option consisterait, si Obama n'était pas Obama, et défier Poutine, c'est-à-dire d'envoyer les avions d'armes américains dans le ciel d'Alep, en disant, nous abattrons des avions
des avions dans une zone d'exclusion
qui pourraient apparaître comme menaçants pour les avions. Mais Poutine a préempté. Ouais. Il a dit que si il y avait ce genre de tentative, la Russie agirait en conséquence. Et je ne sais pas si Poutine bluffe ou pas, mais ce qui est malheureusement assez clair, c'est que personne ne va croire à un bluff réel ou supposé d'Obama.
Surtout qu'il tente toujours, Poutine, il est toujours essayé d'avancer des pions le plus loin possible, puisque comme il n'y a pas de réaction devant lui, alors il fait des attaques, des cyberattaques contre un certain nombre d'intérêts, notamment des démocrates aux États-Unis. Il y a des Tupolev qui viennent un petit peu frôler les côtes européennes. Bretonnes. Ouais. Les côtes bretonnes. Il y a du piratage de listes électorales aux États-Unis dont il semble bien que ça vienne de la Russie. Et effectivement, il fait ce qu'il veut en Syrie. Donc, on a une forme de, je sais pas si on peut appeler ça la guerre froide parce que ça, c'est pas exactement le même contexte, mais on est dans une situation où effectivement, on a face à un dictateur, qui est pas soviétique, mais un dictateur russe, qui se frappe la poitrine et qui nous provoque. On est vraiment dans cette situation-là.
Qu'est-ce que c'est justement, François Hesbourg, ces deux bombardiers stratégiques Tupolev qui ont été interceptés, donc, il y a quelques semaines, au large de la Bretagne par la chasse française avant que les Espagnols prennent le relais? C'est pas le premier incident, ni au large de la France, ni autour des pays de la Baltique, hein, Estonie, Finlande, Lettonie également. Il provoque, il vient tester un peu.
Il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement la provocation, et en étendant le champ de la provocation de plus en plus loin, parce que la nouveauté, c'est effectivement pas de passer au large de la Bretagne, c'était de passer au large du Cap Finistère en Espagne, de Bilbao en Espagne, pardon. C'est bien entendu aussi d'entraîner les pilotes, les équipages russes, ça peut toujours servir. Et c'est aussi une façon de recueillir du renseignement sur nos propres dispositions défensives. Donc on est à la fois dans de l'affirmation stratégique et dans de la préparation à d'éventuelles opérations plus importantes. Ça ne veut pas dire que la Russie va faire la guerre à l'Europe. Ça, je ne pense pas qu'elle en soit là. Les Russes sont des gens sérieux en matière de défense. Donc, s'ils font ça, c'est pas simplement pour qu'on puisse admirer la photo. Et c'est aussi pour préparer un conflit si celui-ci pour des raisons X, Y, devait avoir lieu. Tout ça n'est pas très sympathique.
Oui, c'est
pas illégal, hein. Oui, c'est pas illégal. Oui, le droit international le permet, mais il vaut mieux, effectivement, ne pas se sentir obligé de faire tout ce qui est permis.
On voit très bien les hésitations d'Obama, justement, parce que sa grande crainte, c'est qu'un avion américain se cogne à un Tupolev quelque part au-dessus de la Syrie ou ailleurs. Et il n'a pas du tout envie de ça.
Oui, mais justement, il y avait un débat très intéressant, enfin très intéressant, en tout cas, cette partie était intéressante, je suis pas sûr que le reste est intéressant, le débat des colistiers, hein, dans le cadre de la campagne électorale que vous suivez, Dominique Simonet. Tim Kaine, qui est le candidat donc à la vice-présidence pour Hillary Clinton, se disait prêt à des frappes américaines contre le régime de Damas, au risque d'un affrontement donc avec la Russie. Et puis Mike Pence, pour Trump, cette fois, lui, il veut un bouclier antimissile en Pologne, en République tchèque. Le pire est à venir, donc.
Oui, enfin,
quel que soit le président.
Mike Pence a répété d'une manière obstinée ce que Trump a dit avec. Ouais. Il l'a fait avec beaucoup plus de calme, simplement pendant ce débat, ce qui lui a donné un certain crédit que Trump n'a pas réussi à avoir avec son débat face à Hillary. Mais Trump soutient totalement Poutine. Il l'admire. Pour lui, c'est un homme fort. C'est quelqu'un qui réussit et il est prêt à donner, je parle de Trump, il est prêt à donner à la Russie des prérogatives sur le Moyen-Orient, il est prêt à affaiblir l'OTAN pour des raisons financières, mais en tout cas, voilà, on est dans une configuration avec un candidat à l'élection présidentielle qui n'est pas du tout du côté des démocraties européennes, ça c'est sûr.
Bon, on y reviendra d'ailleurs sur la campagne à propos du débat qui se tient ce dimanche soir, donc deuxième débat entre Trump et Clinton. Oui, à propos de Poutine, confirmation qu'il sera bien là à Paris le 17 octobre pour inaugurer le centre culturel russe et la nouvelle église qui se trouve donc à côté du pont de l'Alma, avenue Rab, dans le 7e arrondissement. Ça va ressembler à quoi cette visite en France de Poutine ? François Hesbourg.
Ah ben, c'est un petit peu comme si le roi d'Arabie Saoudite allait inaugurer une grande mosquée où il habite à la place de l'Alma. Ouais. Et ce cadeau de M. Sarkozy est quand même singulier. Parce que, bien sûr, les orthodoxes ont droit à leur lieu de culte en France, comme d'autres cultes, mais sur des terrains officiels, publics, et mitoyens de locaux relevant de la présidence de la République, fallait quand même le faire. Et moi je suis laïque et obligatoire, et bien sûr j'admire la beauté de Notre-Dame, mais je suis quand même pas très preneur de la construction systématique de lieux de culte divers et variés en plein centre-ville.
Tout François inauguré par le président russe. C'est pas une autorité religieuse qui vient inaugurer. Ah, oui, donc c'est évidemment politique.
Évidemment. L'orthodoxie russe est un culte qui n'est qui, à la différence de l'Église catholique en France, est un culte dont les liens avec le pouvoir sont extrêmement étroits et assumés d'ailleurs.
Juste un mot court sur le terrain dans le nord de la Syrie, les rebelles syriens qui s'apprêtent à reprendre Dabiq à Daesh. Dabiq, c'est un mythe, hein, c'est un symbole pour l'État islamique, François Hesbourg. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé leur magazine
Dabiq. Absolument. Dabiq, non, ça fait partie des lieux, on n'ose pas dire lieux cultes. Mais si, en fait, c'est un lieu culte pour l'État islamique. Et moi, je m'attends dans les mois qui viennent, effectivement, à ce que les populations de Mossoul et de Raqqa soient enfin libérés du joug de Daesh. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout sûr que c'est un impact matériel positif, notable, sur la situation en matière d'attentats dans nos propres pays.
Et allez lire « Comment perdre la guerre contre le terrorisme » signé de François Hesbourg. Juste encore un mot avant qu'on aborde un autre dossier dans un instant, le Brexit dur, hein, promis par Madame May. On évoquait la paix. Mission théoriquement donc dévolue à l'ONU. C'est un Portugais, ancien Premier ministre, Antonio Guterres, qui devrait succéder donc à Ban Ki-moon, donc à la tête de l'organisation. Son nom a été adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Reste à ce que son nom soit validé par l'Assemblée générale. Bon choix. Pourquoi ce choix, François Hesbourg?
Ah, moi, je suis tombé de l'armoire.
Ah.
Parce que le système n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Normalement, le système ne désigne pas le type, ou la femme est, le plus expérimenté et le plus rationnel.
Donc c'est bien, d'après ce que vous...
logique. Ah, c'est formidable.
Ah bon, très bien, très bien.
Ah non, mais c'est absolument formidable. Ouais. Mais c'est, ça s'est jamais vu. Et les Nations Unies normalement ne fonctionnent pas comme ça, puisqu'il s'agit quand même de rassembler les suffrages de pays incroyablement divers comme la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et ainsi de suite.
Dominique, il est quelqu'un de connu pour son dialogue, pour sa préoccupation envers les réfugiés.
Le patron du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est un type qui a eu les mains dans le cambouis. Il a été Premier ministre.
Il y a eu des concessions de part et d'autre. C'est oui. Ben Aoud Abdedaïm qui nous racontait sur BFM Business dans son rendez-vous, donc Un Monde qui Bouge, hein, que deux directions importante du secrétariat général pourrait changer de pays, la direction politique passée des Américains aux Russes, la direction des affaires politiques, et puis les casques bœufs peut-être.
Oui,
c'est pas bien chinois.
Alors ça c'est le monde qui change et pas le bon. Ce qui ne change pas, c'est qu'effectivement il y a toujours un donnant. La direction politique, par exemple, traditionnellement a servi de monnaie d'échange. Hein, ce qui est nouveau, c'est effectivement le département du maintien de la paix qui lui appartient. Depuis pas mal de temps, aux Français. Mais il est vrai que la Chine est devenue un contributeur beaucoup plus important en matière de casques bleus et de soutien de manière générale au maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies que ne l'est la France. Le monde change.
Dominique, un mot.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'avoir la Russie et la Chine accéder à des postes de responsabilité. Cela dit, en plus, de toute façon, on connaît aussi, on parlait d'impuissance tout à l'heure, on connaît l'impuissance de l'ONU avec le droit de veto, et jusqu'à présent, l'ONU n'a pas été très très active dans ce chaos dont on vient de parler tout à l'heure.
Hein. Allez, à quoi va ressembler le Brexit dur à la sauce Theresa May, 7 jours dans le monde, qui reprend dans un instant sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec nous, François Hesbourg, conseiller spécial pour la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Oui, il est sorti au printemps ce livre, mais franchement, allez jeter un œil, plus qu'un œil, bien entendu. C'est bourré d'anecdotes, hein, bourré de toute l'histoire qu'a connue François Hesbourg comme membre de cabinet ministériel, comme spécialiste de la stratégie, comme vendeur d'armes également, vendeur d'armes entre guillemets, bien sûr, tout ça étant parfaitement légal. Oui, enfin, tout ça. Non, mais souvent on dit vendeur d'armes, ça fait le gars un peu qui fait ça, comme ça, de façon clandestine. Non, tout ça était bien organisé, bien sûr, et légal, officiel. Dominique Simonet, First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, hein, avec Nicole Bacharan, que vous connaissez bien. Plus de trois mois après le référendum britannique. Alors, on ne sait pas très, très bien où on en était, ce que voulait le gouvernement. Bon, on reste pas. Et quand? Bon, depuis dimanche, on est fixé, ça c'est sûr. Hein. Theresa May, elle lance le coup d'envoi du Brexit. Elle le disait devant le congrès du Parti conservateur à Birmingham.
Le résultat de ce référendum est clair et légitime. C'était le plus grand vote pour le changement que ce pays ait connu. Le Brexit, c'est le Brexit, et nous allons en faire un succès. Nos lois seront faites non plus à Bruxelles, mais à Westminster. Les juges qui les interprètent ne siégeront plus au Luxembourg, mais dans les tribunaux de ce pays. L'autorité des lois de Bruxelles au Royaume-Uni, c'est terminé.
Bon, bah, comme ça, c'est très très clair. Le calendrier aussi, hein, il est annoncé. Départ définitif de l'UE début 2019, juste avant les prochaines élections européennes. Le fameux article 50 qui va être dégainé, brandi donc à partir du mois de mars prochain. François Hesbourg, à quoi ça va ressembler les négociations? Enfin, si on peut parler de négociations, parce que quand on l'entend, finalement, on a l'impression que le Royaume-Uni semble avant tout bien vouloir partir plutôt que de demander des concessions, des avantages divers et variés. Hein.
Ben d'abord, il faut jamais oublier que Madame May est une militante du Parti conservateur. Et sa préoccupation première, c'est d'essayer de rétablir l'unité de son propre parti.
Et remotiver les troupes dimanche dernier.
Et les remotiver. Mais elle ne pouvait atteindre ces objectifs-là et qu'en poussant les feux vers le Brexit. Et donc, elle est fidèle à ses troupes. Je pense que elle est beaucoup plus loyale vis-à-vis de son parti que mue par l'intérêt national. Et d'ailleurs, la façon dont elle a parlé dans le même discours et de la manière dont le Brexit allait s'appliquer partout dans le Royaume-Uni, sous-entendu aussi en Écosse, qui veut rester en Europe, ou en Irlande du Nord, qui veut rester en Europe. Et ça laisse présager quelques frictions futures. Donc, ça y est, hein, la porte de la sortie est en vue. Elle va être ouverte au mois de mars prochain. À partir de ce moment-là.
Elle va jusqu'au bout.
Ah ben, à ce moment-là, il n'y a pratiquement plus de retour possible. Une fois que vous êtes engagé dans cette mécanique, ça prendra au moins 2 ans, et parce que la durée de la négociation peut être prolongée, hein, c'est, par accord de l'ensemble des partenaires. Et on n'a pas de précédent dans l'histoire et d'un ensemble multinational et dont un des membres se sépare. Et sans que cela ne se situe dans une situation de guerre, comme la guerre de sécession aux États-Unis, comme l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, comme l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, il s'agit d'essayer de défaire les jumeaux siamois. Parce que la législation britannique, elle est comme la législation française, elle est largement d'origine bruxelloise depuis pas mal d'années. Ben pour défaire ces liens, sans tuer le patient britannique et sans traumatiser le patient européen, ça va être très compliqué.
Dominique Simonet.
Vous voyez, on n'est pas dans une situation comparable, parce que là, il n'y a pas de fédération européenne politique les liens économiques sont très étroits et tout le monde pensait que effectivement, les Anglais, les Britanniques plutôt, allaient regretter qu'elle allait faire un petit peu marche arrière, et non, et c'est effectivement elle a décidé d'y aller.
Mais nous le rappelons.
fait dimanche. Faire. Voilà, on a voté à 52% et voilà. On va le faire. Voilà.
Et donc elle n'a pas l'intention non plus de différer les effets. Cela dit, sa tâche va être. Moi, je vois pas bien comment elle va faire. Il y a un nombre considérable de choses, d'accords à revoir. C'est une usine à gaz quand même. Et c'est pas facile non plus avec certaines régions. On parlait de l'Écosse,
bien sûr,
d'Irlande, donc ils vont un petit peu, qui vont ruer dans les brancards. Donc elle va avoir une tâche un peu difficile. Simplement, il faudra bien un moment où on va devoir se faire à cette idée qu'il y a effectivement une Europe économique, en tout cas, sans la Grande-Bretagne.
C'est vrai, François Hesbourg, ça va être difficile, les discussions, les négociations commerciales. Les milieux patronaux, ils aimeraient clairement un soft Brexit et non pas un hard Brexit. On a vu Carlos Ghosn, d'ailleurs, pour Renault-Nissan, qui décide de geler ses investissements jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ça soit plus clair quelque part. On a vu la livre qui a chuté, donc l'investissement public, peut-être qu'il va peut-être prendre le relais avec une Theresa May plus interventionniste. Ça va ressembler à quoi le paysage britannique dans les prochains mois, pendant ces discussions?
Mais d'abord, les prochains mois, ils vont être assez similaires aux derniers mois, c'est-à-dire une situation économique au Royaume-Uni qui reste excellente, et ce qui pose un problème politique pour ceux qui se sont opposés au Brexit, parce qu'ils avaient annoncé la récession immédiate. Or, on est là, l'automne, et le FMI vient de remonter d'un dixième de point les prévisions de croissance pour 2016, et idem pour 2017. Et donc la catastrophe n'est pas là, et à part les Britanniques qui veulent voyager, la baisse de la livre est quand même quelque chose de relativement indolore à ce stade. Le fait que dans 10 ans il y aura des problèmes d'emploi parce que les Chinois ou les Japonais auront cessé d'investir dans le Royaume-Uni, ça n'a pas d'impact immédiat. Et quant au positionnement britannique, à partir du moment où l'article 50 est activé, et cas sans précédent, mais ce qui est tout à fait prévisible, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Britanniques cessent d'être physiquement présents dans l'Union européenne. Je ne vois pas, par exemple, les députés britanniques pouvant continuer à siéger au Parlement européen dès lors que le gouvernement britannique a annoncé qu'il activait l'article et qui doit déboucher sur le divorce.
On a vu à Bratislava, d'ailleurs, c'était une réunion des 27 et pas des 28. Ça a déjà commencé. Alors oui, les affaires européennes polluées par le Brexit, polluées aussi par le débat sur les réfugiés. Dimanche dernier, donc, ce référendum inédit en Hongrie, 98% des votants s'exprimant contre les quotas de migrants. Le Premier ministre, Viktor Orbán.
La proposition européenne est de laisser les migrants à l'intérieur de l'Union, de les répartir au sein des États membres et de laisser Bruxelles décider de cette répartition. La Hongrie, aujourd'hui, rejette cette proposition. La Hongrie décide que seulement nous, les Hongrois, pouvons choisir avec qui nous voulons vivre.
Voilà, le Premier ministre hongrois, Monsieur Orbán. Bon, finalement, le quorum n'étant pas atteint, le référendum n'est pas valide. Hein. Bon, de la part de Viktor Orbán, c'était un pied de nez, évidemment, à l'Europe. Ça commence à monter, hein, Jean-Claude Juncker, ce vendredi matin, disant « C'est le début de la fin si des États membres de l'Union ne respectent pas le plan de répartition européen, François Hesbourg. »
D'abord, Orbán, il fait ça parce que c'est bon pour lui en politique intérieure. La plupart des politiciens s'intéressent d'abord à ce qui marche en politique intérieure, et affirmer de façon dévoyée la souveraineté hongroise sur ce sujet, c'est tout bénéfice pour lui.
C'est Westminster versus Bruxelles, voilà. Mais là, ce sont hongroises. Hein.
Voilà. Et deuxièmement, il fait tout haut. Est-ce que une bonne moitié des États de l'Union font tout bas, et combien de réfugiés sont allés s'installer en Pologne,
en
Slovaquie, ainsi de suite, et le bilan du côté occidental de l'Union, soit dit en passant, n'est pas beaucoup meilleur. Hein. Rares sont les pays qui, comme le Luxembourg, ont réellement accueilli leur quota de réfugiés syriens.
160 000 migrants qui devaient être répartis. sais pas très bien où on en est aujourd'hui.
On en est, je crois, à une trentaine de milliers. Et encore, je crains d'être optimiste. Et autrement dit, ce début de la fin de Juncker, ça fait quand même un petit moment qu'il a commencé. Ce n'est pas Orban qui en est la cause. Orban est tout simplement un profiteur d'une situation qui s'est installée en Europe depuis un bon moment. Et Juncker, j'allais dire, une sorte d'Obama de l'Union européenne, manifeste tout simplement son extrême impuissance.
Voilà, oui, c'est quand on parle d'Obama de l'Union européenne, c'est péjoratif, bien entendu, dans votre bouche, François Hesbourg. Oui. Dominique Simonet, spécialiste des États-Unis, justement.
Ben, on a un bouleversement là sur la question de cette immigration en Europe. On a un bouleversement assez étonnant. Angela Merkel, c'est quand même une personne qui est dite de droite, et on a François Hollande qui est quand même quelqu'un qui est catalogué normalement à gauche. Or, on voit bien les différences de politique en matière des réfugiés. Je pense qu'il y a plusieurs choses parce qu'il faut quand même dire un mot sur nous, sur la France, et sur ce qui se passe, cette réticence, ce débat envenimé, empoisonné même, que nous subissons actuellement. Je crois qu'il y a au moins trois raisons. Il y a d'abord le fait que le pays va mal, et que sur le plan économique, c'est jamais très favorable de convaincre ou de dire aux citoyens de faire un effort, parce que déjà leur vie quotidienne est compliquée et que la France est mal en point. Le deuxième point, c'est qu'on est un pays en pleine crise d'identité. En pleine crise d'identité, vraiment, ce débat sur l'identité française est devenu absurde. On en est parti dans des extrêmes qui n'ont plus de sens. Et le troisième point, je pense que il y a aussi cette peur du terrorisme, cette peur de l'islamisme, avec une crispation très très forte et justifié d'une certaine manière de la société française face à cela.
Ce que vous décrivez, Dominique Simonet, c'est toutes ces questions. Elles apparaissent aussi dans la campagne américaine, notamment dans le camp républicain, non ?
Elles apparaissent, mais la situation est différente. D'abord, la situation économique américaine est sure. malgré effectivement une partie de la classe moyenne qui ne reçoit pas directement les fruits de la croissance, elle est quand même très différente. Il y a quasiment le plein emploi aux États-Unis, donc c'est quelque chose de différent. D'autre part, le débat là est exacerbé. On va peut-être en parler tout à l'heure. On n'est pas dans une crise identitaire aux États-Unis telle qu'on peut la connaître en France. Il y a effectivement un nouveau type de politique qu'on peut appeler populiste, encore faudrait-il définir le mot, mais qui se fait jour et qui est peut-être pas si différent que ça des populismes européens, mais malgré tout, on est dans une situation quand même très très différente.
François Hesbourg.
Nous vivons la fin de la mondialisation heureuse. On est en train de passer à autre chose. Et ce qu'on appelle le populisme, qu'il soit de gauche ou de droite, et c'est quoi ? C'est la crainte, c'est la combinaison de trois choses. C'est la crainte du déclassement social, la perte du statut social, les classes moyennes qui sentent que leur position sociale est en désintégration, ce qu'on voit notamment aux États-Unis, hein. Mmh. Et la crainte est du déclassement ethnique, et à la thématique de Trump sur les Mexicains, par exemple,
bien sûr, hein. Bien sûr.
Et la crainte du déclassement du pays. Alors ça va se traduire par make the US great again chez Trump, ou la grande Russie de Poutine, mais c'est vrai aussi à des niveaux divers chez nous. Alors on retrouve ces trois éléments avec des dosages variables maintenant dans la plupart des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, et j'ajoute de façon d'autant plus vive et politiquement efficace que cela se passe dans les pays où le taux de chômage est faible, où la mondialisation exerce ses effets de la façon la plus complète, c'est le Royaume-Uni avec la victoire du Brexit, et c'est les États-Unis avec Trump qui est quand même devenu le candidat de l'un des deux grands partis de gouvernement des États-Unis, et dans la probabilité de non-élection est aujourd'hui à peu près aussi forte que la probabilité de réussite du Brexit à l'avis du 23 juin au Royaume-Uni. Je ne suis pas en train de prédire sa victoire, je dis tout simplement, malheureusement, on ne peut pas l'exclure.
À suivre dans 7 jours dans le monde, les talibans qui lancent une offensive sur Kunduz 15 ans après avoir été bombardés par les Américains. Et puis la campagne, justement, aux États-Unis, on y revient, c'est dans un mois le scrutin.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Avec Françoise Bourg, avec Dominique Simonet également. C'était il y a 15 ans pile, dans la foulée des attentats du 11 septembre. Le 7 octobre 2001, les États-Unis qui lançaient une vaste offensive pour déloger les talibans du pouvoir afghan. 15 ans après ces frappes américaines, notamment sur Kunduz, donc on est dans le nord de l'Afghanistan, à la frontière tadjik, les talibans ont lancé en début de semaine une offensive éclair sur cette grande ville avant d'en être repoussés. Alors pour combien de temps, je ne sais pas. François Esbourg, malgré les renforts de l'armée afghane, des forces spéciales afghanes, renforts américains également sur place, on voit les insurgés islamistes qui continuent donc leurs actions meurtrières. L'Afghanistan reste dans l'insécurité. L'Afghanistan est incapable de s'assumer.
D'abord, il reste dans l'insécurité, comme il a été depuis un certain nombre de dizaines d'années. C'est pas un scoop. Deuxièmement, c'est la deuxième bataille de Kunduz en à peu près un an, parce que la précédente avait été beaucoup plus violente. Les talibans avaient pris Kunduz. Là, en l'occurrence, l'affaire a été expédiée un peu plus vite. Et tant qu'il n'y a pas le rendez-vous entre les talibans et Daesh, ou entre les talibans et Al-Qaïda 2.0,
il y a des passerelles en ce moment.
Non, pour l'instant, on est dans la rivalité. Dieu merci, si j'ose dire. On est dans la concurrence, dans la compétition. On n'est pas dans la coopération. Tant que tel est le cas, et l'insécurité en Afghanistan, c'est extrêmement dommage pour les habitants de l'Afghanistan. Ce n'est pas exactement le témoignage du succès de la mission internationale au cours des 15 dernières années. Mais ce n'est probablement pas du même ordre d'importance que ce qui peut se passer par ailleurs au Moyen-Orient.
Bien sûr, par exemple. En Syrie, en Irak. Oui, Dominique Simonet, Barack Obama va partir le 20 janvier 2017, dans 3 mois maintenant. Le conflit afghan reste donc.
C'est une épine terrible dans le pied de la politique étrangère américaine depuis longtemps. Effectivement, Obama voulait partir, il voulait partir plus vite. Il n'a pas réussi. Il est très difficile de quitter ce pays en chaos. Je crois qu'il y a eu plus de 10 000 civils qui ont quitté, qui ont fui Kunduz, par exemple. Là aussi, on se retrouve dans une situation qui est difficilement gérable. Mais là aussi. Là encore, vous avez une volonté d'agir, une volonté de faire quelque chose, et toujours, c'est toujours le vieux débat aux États-Unis, isolationnisme ou pas, toujours une grande partie des Américains qui ne veulent pas que leur gouvernement intervienne, qui pensent que les États-Unis ne doivent plus jouer le rôle de gendarme du monde, et qui estiment qu'il faut se dégager au maximum des conflits du Moyen-Orient, d'Asie ou de la vieille Europe.
Alors, dans ce contexte, ce dimanche soir, deuxième débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Tiens, First Ladies, que vous co-signez avec Nicole Bacharan, Dominique Simonet, l'histoire de Mary Lincoln, d'Eleanor Roosevelt, de Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Michelle Obama. Et puis donc, Hillary Clinton, la présidente, chapitre et non des moindres. La moyenne des derniers sondages la donne gagnante, un petit peu plus de 43% contre à peine 41% pour Trump. Elle a des raisons d'y croire, elle touche au but.
Elle est pas loin du but, mais c'est vrai qu'on ne peut jamais rien dire à quelques jours maintenant d'une élection. On sait que tout peut se retourner, qu'il suffit d'un événement dramatique avec des réactions différentes des deux candidats, qu'il suffit d'un débat qui tourne mal. Donc tout est possible, mais c'est vrai que là, elle a une avance de quelques points.
Il est affaibli, Donald Trump, par les révélations du New York Times selon lesquels il aurait évité de payer des impôts pendant 18 ans, de 95 à 2013.
Il est affaibli chez les gens qui de toute façon ne voteraient pas pour lui, parce que je pense je ne pense pas que ça change quelque chose de fondamental pour ceux qui sont décidés à aller voter Trump et qui déjà votent, hein, parce qu'aux États-Unis on a déjà commencé le vote, donc tout ce qui se passe actuellement, on a déjà presque
le 8 novembre, ça sera l'aboutissement, quoi. Voilà.
Le 8 novembre,
ce qui n'aura pas été fait avant.
C'est l'aboutissement. Mais cela dit, il y a un avantage en termes de grands électeurs pour Hillary Clinton, parce qu'il faut toujours rappeler que les États-Unis se jouent non pas en pourcentage.
Direct, bien sûr.
Et voilà. Et donc là, les prévisions actuellement, la donne gagnante, et on a rarement vu. Je crois que ça s'est passé 4 fois dans l'histoire. On a rarement vu qu'il y ait un découplage entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. C'est arrivé notamment avec W. Bush. Mais donc voilà, simplement, elle doit encore prouver. Elle n'est pas très aimée, Hillary Clinton. Hein, on le voit bien aux États-Unis. Ouais. Elle n'est pas très aimée. Elle porte tout le poids de cette lassitude envers les élites, envers Washington. C'est une Clinton, donc elle revient de loin. C'est encore donc pour une grande partie des Américains, elle est considérée comme quelqu'un qu'ils ne veulent pas. Donc elle sera élue par défaut si elle est élue.
Qu'est-ce qui va se passer, François Hesbourg, dans les 4 dernières semaines?
C'est aussi un comme événement qui pourrait se dérouler.
Dire quel discours l'un par rapport à l'autre.
Un acte de terrorisme, bien entendu, oui, pourrait être le genre de chicnaude qui était évoqué, un accident de santé, bien sûr, de l'une ou de l'autre. On craint toujours dans les élections américaines la surprise d'octobre, the October surprise. Donc nous verrons bien. Mais cette élection, à certains égards, nous renvoie à la nôtre, avec le même type d'imprévisibilité. C'est-à-dire, lorsque vous avez des personnalités qui sont massivement impopulaires, qui se trouvent face à face. Pensez taux de rejet, mais plutôt que taux d'adhésion, le taux de rejet de Mme Clinton est de 60%. Oui. Le taux de rejet de M. Trump est de 70%. Le taux de rejet de François Hollande est d'à peu près 80%. Le taux de rejet de Mme Le Pen est d'à peu près 70%. Et le taux de rejet de Nicolas Sarkozy, quelque part entre les deux. Mmh. Lorsque vous avez ce type de phénomène, la prévision devient encore plus difficile que d'habitude.
Dominique Simonet.
François Hesbourg l'évoquait tout à l'heure. Je crois que c'est vrai que c'est une élection importante, en plus qui ressemble effectivement un peu à la nôtre. Et je pense qu'il y a un choix fondamental. On voit que les gens sont écartelés entre la mondialisation et une recherche de racines, une recherche d'identité. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, et on est donc au début d'une nouvelle ère. Et je pense que la grande difficulté des hommes politiques, c'est d'arriver à concilier ces deux choses, à concilier ce besoin de racines et cette nécessité, cette évidence, cette réalité de la mondialisation. Tout le désarroi des citoyens américains et français pourrait se résumer là-dedans. C'est un débat théorique, mais je pense que l'élection américaine va déjà nous donner une indication là-dessus.
Dominique Simonet avec nous pour 7 jours dans le monde, hein, co-auteur avec Nicole Bacharan de First Ladies. À la conquête de la Maison Blanche. Ça vient de sortir, évidemment, en plein dans l'actualité. Merci à François Hesbourg, également conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Aussi, bah oui, ça continue, bien entendu, malheureusement. 7 jours dans le monde, c'est fini. Merci à tous.
BFM Business, 7 jours dans le monde.